Bonjour et bienvenue en ce lundi 16 avril 2018 qu'on n'oubliera pas de sitôt. Hélène Denis avec vous et qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Le quotidien des quotidiens. Joyeux printemps avec des crampons, ça c'est pas mal obligatoire aujourd'hui, n'est-ce pas Jean-Sébastien?
Oui, oui, fort belle invention que les crampons.
Les avez-vous sortis?
Absolument, je ne sais pas si je me serais rendu en un seul morceau sinon.
C'est vrai parce que de la glace, il y en a.
Et oui.
Alors mon cher, les éphémérides, peut-être que l'année prochaine vous allez nous parler de cette journée quand même assez spéciale, de ce 16 avril.
On va peut-être essayer de l'oublier. Peut-être.
Ouais, mais tu sais, s'il fait beau l'année prochaine, on va en rire.
Oui.
J'ai hâte d'en rire. Bon, allez-y.
16 avril, un doublon pour aujourd'hui. Nous sommes la journée mondiale contre l'esclavage des enfants. Bien sûr, une cause extrêmement importante. Et le 16 avril est la journée mondiale de la voix. Donc, c'est absolument quelque chose qui nous touche en tant que, notamment vous, Hélène, en tant que professionnelle qui se sert de sa voix à chaque jour.
Oui, c'est notre outil de travail.
Absolument. Événement marquant, alors vous me pardonnerez, j'ai un petit chat qui lui aussi a mis ses crampons et s'est bien cramponné dans ma gorge.
Ça arrive, hein?
Alors, 16 avril 1887, entre les lacs Érié et Ontario, ouverture du premier canal de Welland qui contourne les chutes du Niagara. 1921. Grande date, 16 avril 1921.
Ah oui?
Naissance du premier fromage fondu en portions, la vache qui rit.
Je ris, mais c'est pas parce que ça s'appelle la vache qui rit, là. Mais je vais pas faire un mauvais jeu de mots, mais enfin, ça existe toujours. Hein?
Ça existe toujours.
1921.
Wow. Dans quelques années, elle aura 100 ans, cette vache qui rit. 1926, le bureau de censure du Québec étant jugé trop zélé, les studios Famous Player, Lasky, Universal, Fox, MGM et Pathé menacent de ne plus distribuer leurs films à compter du 1er août 1926. 1941, à Sarajevo, les Allemands incendient la Grande Synagogue. 16 avril 1943, on découvre les effets hallucinogènes du LSD. 1945, l'armée américaine entre à Nuremberg. 16 avril 1957, l'assurance hospitalisation canadienne débute avec l'adhésion de la 6e province requise, l'Île-du-Prince-Édouard. 1975, les Khmers rouges font capituler le régime de Phnom Penh, prélude au massacre du peuple cambodgien. 16 avril 1995, après une dispute due à des chalutiers espagnols, le Canada et l'Union européenne s'entendent sur les droits de pêche. Et 16 avril 2007, c'est un événement assez triste dont on parle encore aujourd'hui, en Virginie, 33 personnes sont tuées à l'université Virginia Tech. Donc, un des plus gros massacres qui a eu lieu en sol américain. 16 avril, c'est l'anniversaire de naissance du libraire et poète québécois Octave Crémazie, né en 1827.
Ce n'est pas juste une rue.
Ce n'est pas juste une rue, ce n'est pas qu'une station de métro.
Non plus.
1867, naissance du pionnier américain de l'aviation Wilbur Wright. 1899, l'acteur et producteur Charles Spencer Chaplin, Charlie Chaplin. Et 1907, 16 avril, naissance de Joseph Armand Bombardier, ce pionnier, bien sûr, de la motoneige. Décès en 2013, le 16 avril, de la chanteuse québécoise Pierre Bélan. Et je termine ces chroniques en souhaitant également un joyeux anniversaire à ma grand-maman.
Oh, bonne fête, grand-maman. Elle s'appelle comment?
Elle s'appelle Gertrude.
Alors, bonne fête, Gertrude. À la une de la presse, le barreau veut faire invalider les lois du Québec. La traduction du français à l'anglais fait parfois défaut et entraîne des incohérences, plaide-t-il. Documentaire Wild Wild Country. Montréal aussi avait ses disciples d'Osho. La chronique de Francis Veil, revirement majeur pour les immigrés. Ils sont désormais proportionnellement plus nombreux à occuper un emploi que les personnes nées ici. Pose famille, ses enfants qui dérangent au resto. Le barreau veut faire invalider les lois du Québec. L'adoption des versions anglaises et françaises n'est pas conforme à la Constitution, dénonce un nouveau recours judiciaire. Le barreau du Québec et celui de Montréal demandent aux tribunaux d'invalider les lois ou les règlements adoptés par le gouvernement du Québec et l'Assemblée nationale au motif qu'ils sont inconstitutionnels. L'adoption des textes législatifs devrait se faire simultanément en français et en anglais, fait valoir la procédure d'une vingtaine de pages signifiée par le cabinet Johnson Avocat Inc. au président de l'Assemblée nationale Jacques Chagnon et à la procureure générale du Québec Stéphanie Vallée. Or, ce que l'Assemblée nationale fait présentement, note la demande introductive d'instance, est d'établir un processus législatif pratiquement unilingue suivi d'une traduction à la toute fin du processus d'adoption. Par conséquent, les lois, les règlements et les décrets adoptés par le Parlement du Québec, ainsi que les règlements pris par le gouvernement du Québec, sont donc inconstitutionnels, nuls, inopérants et sans effet dans leur entièreté, car ils ont été adoptés en vertu d'un processus législatif et réglementaire qui viole les garanties prévues à l'article 133 de la loi constitutionnelle de 1867. Selon les demandeurs, cette manière d'adopter des lois engendre plusieurs incohérences dans le contexte où les versions anglaises et françaises doivent avoir la même valeur juridique. Ils donnent l'exemple du Code de procédure civile qui a dû faire l'objet d'importants changements depuis son adoption en 2014. Ils évoquent aussi l'article 439.1 du Code de la sécurité routière qui prévoit dans sa version française que le cellulaire ne peut être utilisé lorsque le conducteur le tient dans ses mains, alors que la version anglaise a été interprétée de manière plus large par les tribunaux, sans que le conducteur ait nécessairement à avoir l'appareil en main. Donc, à l'heure actuelle au Québec, une même conversation téléphonique peut valoir une amende au conducteur ou pas, selon la version que choisit de prioriser le juge. Revirement majeur pour les immigrés, c'est la chronique de Francis Veil, je vous en lis quelques passages. Il s'agit d'un revirement majeur sur le marché du travail. Un revirement qui contredit un certain discours selon lequel les immigrés contribuent peu à l'économie, qu'ils vivent au crochet de la société. En 2017, les immigrés au Québec sont devenus proportionnellement plus nombreux à occuper un emploi que les personnes nées ici. Le phénomène est non seulement historique et en croissance, mais aussi unique parmi les grandes provinces canadiennes. Aujourd'hui, toutes catégories confondues, les immigrés du Québec sont proportionnellement plus nombreux à occuper un emploi que ceux de la Colombie-Britannique, 57,8%, et de l'Ontario, 57,5%. Deux provinces pourtant très ouvertes aux immigrés, les faits saillants du budget de l'Ontario ont été traduits en 18 langues, dont le hindi et le tamoul. Le taux d'emploi est calculé en divisant le nombre d'emplois d'un groupe par son nombre total d'individus. Autrement dit, les 39 % sans emploi sont les chômeurs, les retraités, les parents à la maison, les enfants de moins de 15 ans sont exclus du calcul. Alors, pour le Québec, pour la première fois, ce taux d'emploi des immigrés au Québec dépasse celui des natifs d'ici de 60,8 %. Diverses raisons peuvent expliquer le phénomène. D'abord, le Québec connaît une forte croissance et les nouveaux emplois ont été davantage pourvus par la main-d'œuvre disponible, constitués plus souvent d'immigrés qu'ailleurs. Depuis 10 ans, un emploi sur deux à Montréal a été pourvu par des immigrants. Contrairement à ce qu'on entend parfois, les immigrés n'ont pas volé nos jobs, entre guillemets. Ils ont plutôt soulagé la pénurie de main-d'œuvre dans bien des secteurs. Et leur activité accrue sur le marché du travail contribue à nourrir les coffres de l'État en recettes fiscales diverses. Maintenant, tout n'est pas rose pour autant. D'abord, les immigrés sans emploi sont proportionnellement plus nombreux que les natifs à être en chômage et non à la retraite ou à la maison avec les enfants. Ainsi, leur taux de chômage est de 8,7% en 2017 contre 5,5% pour les natifs. Tourisme, une exclusivité de la presse dans la section Affaires, le Festival international de jazz de Montréal passe devant le Grand Prix du Canada de F1 comme l'événement touristique québécois qui génère le plus de retombées économiques. Le FIJM, Festival international de jazz de Montréal, a généré des retombées économiques de 48,5 millions de dollars, valeur ajoutée au PIB du Québec, pour son édition 2017 en vertu de la méthode de calcul utilisée par Tourisme Québec, comparativement à des retombées économiques de 42,4 millions pour le Grand Prix du Canada de F1 en 2015, la plus récente étude disponible dans le cas du Grand Prix. Le Festival international de jazz de Montréal, qui rendra officiellement public ce matin sa dernière étude de retombées économiques, devance aussi le Grand Prix du Canada en matière de retombées fiscales pour les gouvernements du Québec et du Canada. Manifestation monstre à Barcelone. Au cri de « Liberté pour les prisonniers politiques », quelques centaines de milliers de Catalans, 315 000 selon la police, ont manifesté hier à Barcelone pour protester contre la détention de 9 figures de l'indépendantisme accusés de rébellion. 6 mois après les premières incarcérations, ils ont empli la grande avenue parallèle résonnant du slogan « Nous voulons que vous rentriez à la maison ». Un message aux dirigeants indépendantistes en détention provisoire dans la région de Madrid, poursuivi pour sédition, détournement de fonds ou le délit controversé de rébellion, passible d'un maximum de 30 ans de prison et qui suppose un soulèvement violent. L'appel à manifester avait été lancé par une plateforme d'associations et syndicats créée en mars pour défendre les institutions catalanes et les droits et libertés fondamentales. « Puis-je demande, président ?» réclamaient des manifestants 10 jours après la mise en liberté de l'ex-président indépendantiste catalan Carles Puigdemont en Allemagne, où un tribunal a considéré que les chefs d'accusation pour rébellion n'étaient pas étayés pour son éventuelle extradition vers l'Espagne. Cependant, des magistrats espagnols ont transmis jeudi à leurs homologues allemands des éléments afin d'accréditer l'existence de violences justifiant la rébellion, dans l'espoir d'obtenir la remise de M. Puigdemont à l'Espagne pour cette accusation. Salvador, une journaliste salvadorienne, Carla Turcios, portée disparue hier, a été assassinée, a annoncé le quotidien La Prensa Gráfica, qui appartient au groupe pour lequel elle travaillait. Assassinat de la journaliste Carla Turcios a écrit le journal sur son compte Twitter. Selon le quotidien, le corps de la journaliste, qui était âgée de 33 ans, a été découvert sur une route dans les environs du village de Santa Rosa Gachipilin, à 100 km au nord-est de San Salvador. Une source au parquet général salvadorien a indiqué que le corps d'une femme avait été découvert samedi soir sur cette route, mais qu'en l'absence de tout document personnel, la victime n'avait pas pu être identifiée immédiatement. Les autorités n'ont pas avancé immédiatement d'hypothèses sur les causes du meurtre. Le Québec doit se préparer à recevoir un cocktail météo au cours des prochains jours. Neige, pluie, verglaçante, grésil et pluie devraient s'abattre sur le sud de la province jusqu'à demain soir. L'important système dépressionnaire se dirigera progressivement vers l'est. Les impacts se feront surtout sentir aujourd'hui. À Montréal notamment, il pourrait tomber jusqu'à 10 mm de verglas. L'heure de pointe de ce matin pourrait être difficile pour les automobilistes. Ça a été le cas, je crois, mais moins peut-être difficile étant donné que plusieurs des écoles étaient fermées. Plusieurs écoles étaient fermées. De même que le retour à la maison en fin d'après-midi si les températures demeurent autour du point de congélation. La pluie verglaçante pourrait toutefois se changer en pluie si le mercure grimpe. Dans les régions plus au nord, plus de 15 cm de neige sont attendues. Des rafales de 50 à 70 km à l'heure sont aussi prévues. Hydro-Québec se dit prête à toute éventualité advenant des bris et des pannes de courant. En Ontario, la tempête de verglas qui sévit depuis samedi a provoqué plus de 500 accidents de la route dans la seule région de Toronto. La police ne signale toutefois pas de mort.
Tu sais, Tu sais, ce soir j'ai vu tous les joyaux de la pop. J'ai même bu à outrance toute l'absinthe de tes potes. J'ai côtoyé de rares nymphes, pris des rails en avance dans des salles bien trop noires, sans lueur d'élégance. Davantage j'ai serré mes mâchoires lamentables et zélé des amants, des garçons de passage que j'ai tenté d'approcher, mais que ma mascarade a fait fuir lentement par sa froideur maussade. Alors j'ai rempli ma panse avec de vives urgences, autant vives que ivres sur la piste de danse. J'ai ajusté mes pansements pour que mes saignements soient beaucoup moins apparents sur la piste d'argent. C'est la fête de trop. Moi je l'ai faite, des fêtes et ça jusqu'au fiasco. C'est la fête de trop. Regarde, je lui de paillettes et me réduis au chaos. Tu sais, ce soir j'ai lu dans mon corps relâché le manuel torturé de cette danse exaltée. J'ai même glissé ma langue dans des bouches saliveuses, dans de tout petits angles où l'on voit que les muqueuses. Puis là, je suis rentré bel et bien les mains nues, avec cet air déjà vu et l'envie de surplus. J'ai rien trouvé de précis, excepté d'apparence, exactement même si demain tout recommence. C'est la fête de trop. Moi je l'ai fait, des fêtes et ça jusqu'au fiasco. C'est la fête de trop. Regarde, je lui de paillettes et me réduis au chaos. C'est la fête de trop. Moi je l'ai fait, des fêtes et ça jusqu'au fiasco. C'est la fête de trop. Regarde, je lui de paillettes et me réduis au chaos. Danse. Faites ça jusqu'au fiasco, c'est la fête de trop. Regarde, lui de paillettes et me réduit au chaos.
Fête de trop, Eddie de Préto sur Canal M.
Du Devoir, une photo de Justin Trudeau. Le premier ministre Justin Trudeau a tenté durant la conférence de presse de plus de 30 minutes de brosser le portrait d'un pays uni avec des besoins et des intérêts complexes dans l'objectif d'apaiser les tensions persistantes à travers le pays relativement au projet. On parle du projet Trans Mountain ou Trans Mountain. Donc justement, Trans Mountain, Trudeau impose sa volonté. La langue corse sur la voie de l'extinction. La Corse perd de plus en plus de terrain et certains croient que le déclin est irréversible. Emmanuel Macron est favorable à une mention de la Corse dans la Constitution, mais l'ouverture du président de la France ne va pas aussi loin que le souhaitent les nationalistes corses. Livre James Comey et des mémoires qui égratignent. On parle du livre de James Comey intitulé « Une loyauté à toute épreuve », ex-patron du FBI, livre qui sera lancé le 17 avril simultanément en anglais et en français. Commission des droits de la personne, aucune conclusion après 6 ans d'enquête sur une entreprise de volaille. Le dictionnaire papier voué à disparaître. Bachar al-Assad, le chimique, une chronique de François Brousseau. Parti québécois, Jean-Martin Hossan remporte l'investiture dans Pointe-aux-Trembles. Après la médiation, l'action. Le premier ministre Justin Trudeau a changé de ton dimanche dans le dossier du projet d'oléoduc Trans Mountain et a annoncé que son gouvernement prendra les moyens financiers et législatifs pour qu'il se réalise malgré l'impasse politique dans laquelle il est embourbé. Une approche qui laisse perplexe certains experts et écologistes. Au cours d'un point de presse dans lequel il a souligné l'intérêt national du projet d'expansion de l'oléoduc Trans Mountain, Le premier ministre Trudeau a déclaré avoir demandé à son ministre des Finances, Bill Morneau, d'entreprendre des négociations avec l'entreprise Kinder Morgan afin d'éliminer l'incertitude planant sur le dossier. Ottawa pourrait par exemple devenir un participant financier dans ce projet de 7,4 milliards de dollars. Karel Mehran, directeur général pour le Québec et l'Atlantique de la Fondation David Suzuki, croit que c'est un non-sens que le gouvernement mette des fonds publics dans ce projet-là, d'autant que le pays pourrait se retrouver d'ici quelques années avec des infrastructures beaucoup moins utilisées. L'oléoduc Trans Mountain deviendrait un peu comme un éléphant blanc. C'est troublant, dit M. Mehran. M. Trudeau a fait ses déclarations peu après une rencontre infructueuse de près de 2 heures avec la première ministre de l'Alberta, Rachel Notley, et le premier ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan. Ce dernier s'oppose à l'élargissement de l'oléoduc Trans Mountain, entre autres en raison des dommages environnementaux. Rachel Notley a déclaré que le gouvernement fédéral et celui de l'Alberta avaient convenu d'un plan pour éliminer le risque des investisseurs entourant le projet d'expansion de Trans Mountain. Jean-Martin Hossan, ex-député et fondateur d'Option nationale, sera le candidat du Parti québécois dans Pointe-aux-Trembles lors des élections provinciales d'octobre. Il a été élu avec 64 % des voix dimanche après-midi, devançant son adversaire Maxime Laporte, président de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, qui a, quant à lui, recueilli 36 % des voix. L'économiste de formation, on parle de M. Hossan, âgé de 47 ans, compte bien séduire les électeurs en misant sur la souveraineté du Québec, son cheval de bataille depuis ses premiers pas en politique. Saint-Jérôme, la CAQ mise sur l'économiste Youri Chassin. Le terrain était déjà bien préparé pour l'annonce de la candidature de l'économiste Youri Chassin aux prochaines élections générales pour la coalition Avenir Québec. Les rumeurs à son sujet couraient depuis janvier et son nouveau blog affichait depuis un mois des textes sur sa vision de la société et sur l'engagement politique. Dimanche, le chef caquiste François Legault a confirmé que M. Chassin se présenterait dans la circonscription de Saint-Jérôme. M. Chassin a occupé les postes d'économiste et de directeur de la recherche à l'Institut économique de Montréal de 2010 jusqu'à tout récemment. Il a également été analyste économique au Conseil du patronat du Québec. On mérite un gouvernement responsable, un gouvernement de la CAQ va s'assurer de bien gérer l'argent des contribuables et de mettre fin au gaspillage, a-t-il déclaré dans le communiqué. Les ONG canadiennes dénoncent les solutions militaires en Syrie. Les organisations humanitaires canadiennes actives en Syrie préfèrent la diplomatie à toute mesure violente de représailles. La directrice des affaires humanitaires de Save the Children Canada, Rachel Logel-Carmichael, rappelle que toute violence, y compris les bombardements, tue et blesse des enfants. La semaine dernière, la ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, a déclaré que le gouvernement fédéral travaillait avec des organisations non gouvernementales, ONG, et d'autres entreprises pour obtenir des éléments de preuve des crimes de guerre et des atrocités commis en Syrie. De tels propos ont grandement indigné Mme Logel-Carmichael. Selon elle, ce n'est pas le rôle des ONG de fournir des renseignements de sécurité. La présidente et chef de la direction de CARE Canada, Gillian Barth, a souligné que sans la diplomatie, les combats allaient se poursuivre, entraînant leur lot de souffrances et de morts. Moutaz Adam, responsable de l'intervention d'urgence d'Oxfam en Syrie, préfère lui aussi des négociations de paix à toute solution militaire. Yves Gingras, dans les lettres au devoir, on doit saluer le nouveau politicien Vincent Marissal de nous rappeler, sans le vouloir, que la vérité de la politique, c'est le mensonge. En effet, le premier geste qui a suivi sa mutation de journaliste à politicien a été de mentir, point de suspension. Parions que la seconde étape de son parcours sera de produire des sophismes, comme l'a encore fait son collègue Gabriel Nadeau-Dubois, qui, prenant sa défense, affirmait que c'est normal de se poser des questions et que ce qui compte, c'est la décision qu'on prend. L'honnêteté intellectuelle exige plutôt que, quand on se fait poser des questions, on fournisse de vraies réponses. Prendre des décisions n'est pas répondre à des questions. Barbara Bush, femme de l'ancien président américain George H.W. Bush et mère de l'ancien président George W. Bush, a décidé d'arrêter son traitement médical malgré sa santé déclinante, a annoncé dimanche un porte-parole de son mari, tout en précisant que la femme de 92 ans va se concentrer à la place sur des soins palliatifs. Barbara Pierce est née en juin 1925 dans l'État de New York. Elle a rencontré George H.W. Bush à 16 ans avant de l'épouser 3 ans plus tard. Ensemble, ils ont eu 6 enfants, dont George W. Bush, président des États-Unis entre 2001 et 2009, et Jeb Bush, gouverneur de Floride entre 1999 et 2007, et candidat malheureux aux primaires républicaines pour la Maison-Blanche en 2016. Son mari a dirigé le pays entre 1989 et 1993. Et pour terminer, un rassemblement pacifique de soutien à des occupants expulsés de terrain dans la zone de Notre-Dame-des-Landes en France a donné lieu à des incidents dimanche entre manifestants et forces de l'ordre. Depuis lundi dernier et près de 3 mois après l'abandon d'un projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, le gouvernement a déclenché lundi une opération pour expulser des militants qui occupent depuis plusieurs années la zone d'aménagement différé qu'ils ont rebaptisée « zone à défendre ». Bonne journée de la voix, dit-elle avec un gros chat dans la gorge. Merci d'être à l'écoute. De retour après la pause.
J'ai fréquenté successivement n'ont jamais manqué autant que celle qui est loin, qui s'y présente en même temps. Moi, comme un cave, je suis amoureux d'elle et elle de moi. Oublier jusqu'à mon nom.
va repartir encore. Aujourd'hui elle est revenue, mon cœur est à la hausse, mais demain elle va repartir encore.
Éric Goulet nous interprétait « Comme un cave », un succès qui date du temps qu'il était à la tête de la formation Possession Simple, un succès de 1992. C'était donc Éric Goulet en solo avec la pièce « Comme un cave ».
En une de la presse, bureau d'enquête, des jurés identifiés par Facebook, des avocats se servent des cellulaires dans les palais de justice. Donc, toute une enquête, des avocats identifient des jurés grâce à Facebook. D'influents avocats de la Défense québécoise utilisent Facebook pour identifier des membres du jury lors de procès criminels, a appris notre bureau d'enquête. Ces citoyens, dont l'identité doit absolument rester secrète, ne se doutent de rien pendant qu'on fouille dans leur vie privée. L'exploitation des données personnelles de Facebook ne sert pas qu'à des fins publicitaires ou politiques, à l'image du récent scandale de la firme Cambridge Analytica. Elle sert aussi discrètement dans les palais de justice. La protection de l'identité des jurés, l'un des fondements du système judiciaire canadien, vise par exemple à éviter que ces citoyens ordinaires ne soient victimes d'intimidation ou de représailles pendant ou après un procès. Et pourtant, lorsqu'ils se présentent chaque matin au palais de justice avec leur téléphone intelligent en poche, les jurés québécois ouvrent toute grande la porte à leur identification. Cela n'est pas une hypothèse ou de la science-fiction. Plusieurs avocats nous ont expliqué qu'ils exploitent cette faille avec succès dans des palais de justice afin de mieux connaître les jurés et ainsi obtenir une issue plus favorable pour leurs clients. Les réseaux sociaux mettent à mal la confidentialité des jurés, même s'il s'agit d'un aspect fondamental du système de justice, affirment des experts consultés par notre bureau d'enquête. Au début d'un procès, nous pouvons avoir accès au nom, à l'âge et à l'emploi d'un juré. Aujourd'hui, ces informations sont suffisantes pour retrouver quelqu'un, explique Alexandra Longueville, une avocate habituée au procès devant jury. La juge retraitée Nicole Gibault va encore plus loin en affirmant que les réseaux sociaux ont changé la game, tellement il est facile d'obtenir des informations sur un individu. Et selon l'implication d'un juré sur Internet, il peut même être géolocalisé en tout temps. Pourtant, leur confidentialité est essentielle au bon fonctionnement de la justice et fouiller dans leur vie est ultra délicat, s'accorde tant Maître Longueville que l'ex-juge Gibault, car en préservant leur anonymat, cela leur permet de juger sans crainte et en toute quiétude. Nicole Gibault, donc la juge retraitée, rappelle que si quiconque a des doutes sur l'impartialité d'un juré, il peut prévenir le juge qui pourra mener son enquête. Un juré, c'est un juge de la Cour supérieure, appelle pour sa part Maître Longueville, expliquant que fouiller la vie d'un juré revient donc à l'équivalent de fouiller la vie d'un magistrat. La Russie craint un chaos. De futures attaques occidentales en Syrie entraîneraient inévitablement le chaos au sein de la communauté internationale, prévient le président russe Vladimir Poutine 2 jours après les représailles conjointes des États-Unis, de la France et du Royaume-Uni. La poussière est à peine retombée sur les 3 sites frappés par 100 de missiles occidentaux dans la nuit du 13 au 14 avril que les tractations diplomatiques se succèdent. Moscou, allié indéfectible du régime syrien, a qualifié d'action illégale la frappe militaire. Le président de la Syrie, Bachar al-Assad, est allé plus loin, accusant l'Occident de mener une campagne de mensonges et de tromperies. Selon lui, son régime et la Russie mènent une seule et même bataille, non seulement contre le terrorisme, mais aussi pour protéger le droit international fondé sur le respect de la souveraineté des États. Les aménagements hostiles en hausse, les itinérants et les amateurs de planches à roulettes seraient particulièrement visés par ces mesures. Allant des accoudoirs au milieu des bancs jusqu'aux pics anti-itinérants, l'architecture hostile est conçue pour dissuader les citoyens d'utiliser le mobilier à des fins autres que celles pour lesquelles il a été créé. La Bibliothèque et Archives nationales du Québec est, par exemple, entourée de bancs avec des tiges métalliques qui empêchent les gens de s'étendre ou de dormir. Une structure en béton située à la place Vauclin dans le Vieux-Montréal est munie de morceaux de métal sur ses bordures pour empêcher, entre autres, d'y faire de la planche à roulettes. Après Toronto, qui a soulevé cet enjeu ce mois-ci, il semblerait que Montréal n'est pas épargné par ce phénomène. Mon équipe voit de nouveaux bancs anti-itinérants chaque année. Ça ne fait que déplacer le problème, dit Émilie Fortier de la mission Oldbury. Le Bloc veut garder une toile de Québec. Le Bloc québécois demande à la ministre Mélanie Joly d'intervenir auprès du Musée des beaux-arts du Canada d'Ottawa afin que le tableau Saint-Jérôme entendant les trompettes du jugement dernier du peintre français Jacques-Louis David reste au Québec. Le tableau est la propriété de la fabrique de la paroisse Notre-Dame de Québec depuis plusieurs décennies. Selon ce que l'agence QMI a appris mardi, il serait dans la mire du Musée des beaux-arts du Canada qui en ferait l'acquisition avec les profits de la vente le mois prochain à New York d'un tableau de sa collection « La Tour Eiffel » de Marc Chagall. La chef du Bloc, Martine Ouellette, ainsi que le député Mario Beaulieu, demandent à la ministre Joly d'intervenir exceptionnellement auprès du MBAC pour empêcher sa démarche d'acquisition, soulignant que 2 musées québécois, soit le Musée de la civilisation et le Musée des beaux-arts de Montréal, voudraient également acheter le tableau. Un pompier à la retraite du Michigan a été accusé de tentative de meurtre sur un adolescent de 14 ans qui avait cogné chez lui pour demander son chemin jeudi dernier. Le garçon de race noire avait manqué l'autobus pour aller à l'école, selon CNN. Il se serait perdu en tentant de s'y rendre à pied. En frappant chez Jeffrey Craig Ziegler, 53 ans, il a été reçu par une femme qui lui a hurlé dessus. Ziegler, un homme de race blanche, a alors fait son apparition, un fusil à pompe à la main. L'adolescent a pris la fuite et l'homme a fait feu en sa direction sans parvenir à le blesser. D- Des astronomes ont découvert par accident une étoile située à plus ou moins 9,3 milliards d'années-lumière de la Terre, soit une centaine de fois plus lointaine que celle qui avait précédemment été observée. Officiellement baptisée, tenez-vous bien, MACS, M-A-C-S, J1149-2223, Lancet Star 1, mais surnommée Icare, l'étoile, une supergéante bleue, a été découverte par hasard en 2016 alors que des astronomes étudiaient de lointaines galaxies à l'aide du télescope spatial Hubble. Un célèbre avocat américain fervent défenseur des droits des homosexuels s'est immolé par le feu dans un parc de New York pour protester contre la pollution, selon une lettre d'adieu envoyée aux médias avant sa mort. Selon le New York Times, David Buckle s'est suicidé par le feu dans le parc Prospect de Brooklyn samedi matin. La pollution ravage notre planète et répand l'instabilité à travers l'air, le sol, l'eau et la météo, écrit M. Buckle dans sa lettre d'adieu. La plupart des humains sur la planète respirent maintenant un air rendu insalubre par les carburants fossiles et beaucoup de conséquences, mourront prématurément. Ma mort prématurée au moyen d'un carburant fossile reflète ce que nous sommes en train de nous faire à nous-mêmes, dénonce-t-il.
J'espère de pas tomber en amour avec toi. L'amour, ça me fait les blouses à chaque fois. Au rythme de la musique qui joue, je sens ton cœur qui bat. Je buvais ma bière tranquille, mais là, je t'entends m'appeler tout bas. J'espère de pas tomber en amour avec toi. On est bien tassé, y a du monde partout. Si je t'offre une chaise, j'ai peur d'avoir l'air fou. Si tu t'assois avec ce gars-là, rends-y son air de bœuf. D'ici que la soirée finisse, je serai peut-être moins nerveux. J'espère de pas tomber en amour avec toi. C'est drôle l'effet que ça fait quand t'es un gars. Les trucs de phéromones pis de mâle alpha. Je me retourne juste pour te regarder dans la trolley urbaine. Je voudrais tellement aller te parler, mais on se connaît à peine. J'espère de pas tomber en amour avec toi. Je vois bien que t'es toute seule, tout autant que moi. Il se fait tard, tu voudrais peut-être qu'on se revoie. Je me retourne juste pour te regarder, tu me regardes aussi. Le gars assis à côté de toi s'en va, puis tu rougis. J'espère que tu tombes pas en amour avec moi. C'est l'heure. la fermeture, on baisse le son. Pour mon lascol, un whisky sans glaçon. Je me retourne juste pour te regarder. T'es pas là, t'es parti. Je cherche partout, je bois un coup. C'est l'histoire de ma vie. Puis je pense que je suis tombé en amour avec toi. Puis je pense que je suis tombé en amour avec toi.
Fred Pellerin nous interprétait « J'espère ne pas tomber en amour avec toi ». C'est à l'origine une pièce de Tom Waits qui a été adaptée par David Portelance, une pièce qui date de 1973.
Fred Pellerin qui chante du Tom Waits. C'est particulier, mais c'était très beau. Merci Jean-Sébastien. Alors pour amorcer la lecture des extraits ou des articles puisés dans les journaux régionaux, j'ai choisi de lire au complet la chronique de Mylène Moisan qui est aussi publiée dans la presse d'aujourd'hui intitulée « 306 fois je t'aime ». Quand on passe 60 ans avec la même personne, quand elle s'en va forcément, elle ne s'en va pas vraiment. Comme Pauline, Clément Gravel se rappelle encore la première fois qu'il l'a vue dans le Vieux-Québec. « Je marchais avec des amis. » J'ai remarqué une jeune femme de l'autre côté de la rue, petite jupe grise, veston bleu marin, avec un beau chapeau. J'ai dit à mes chums, « Cette fille-là, je vais la marier. » Il l'a revue quelques mois plus tard. J'étais à la patinoire, je regardais les gens patiner. Quelqu'un m'a tapé sur l'épaule. C'était elle. Elle était la voisine d'une amie. Elle m'avait vue, elle m'avait remarqué aussi. Ils se sont dit oui à Chicoutimi le 2 octobre 1954. Ils ont eu 5 beaux enfants. 4 garçons et une fille. J'ai été chanceux, j'ai été heureux, comme ça ne se peut pas. C'est grâce à elle si je suis comme je suis aujourd'hui. J'ai eu une femme extraordinaire. Je ne sais pas comment ils ont fait pour la faire. On s'est aimés tellement aimés. Ils étaient partis pour s'aimer comme ça longtemps encore, mais Pauline est tombée malade. Elle est entrée une dernière fois à l'hôpital en novembre 2015, n'en est pas ressortie. À part une fois pour fêter Noël chez elle, entourée de toute sa famille. J'allais tout le temps la voir. J'y allais 2-3 fois par jour. Elle pleurait souvent. Je la serrais dans mes bras. Des fois, je me réveillais la nuit et j'allais à l'hôpital juste pour la voir dormir. Un jour de janvier, Pauline a tendu un paquet à Clément. Une boîte emballée de papier brun, sans chou ni ruban. Je ne l'ai pas déballée tout de suite. Je l'ai amenée à la maison et je l'ai déposée sur une table au sous-sol. Je l'ai laissée là. Pendant la nuit, je me suis réveillée et je repensais au paquet. Je suis descendue et je l'ai ouvert. Il y avait 2 toiles, 3 ou 4 petits pinceaux, 7 ou 8 tubes de peinture. Clément est remonté se coucher. Il est redescendu. Je me suis mis à peindre. C'est mystérieux, je n'ai jamais peint de ma vie. J'ouvre ça, je donne des coups de pinceau, je me mets à peindre, à vouloir faire son visage. Il signe « Papy ». Le lendemain matin, dans la lumière du jour, Clément retrouve le portrait de sa femme. Il décide de lui apporter à l'hôpital. J'arrive, je lui montre ça, et elle s'est mise à sourire. Je suis tout de suite allée m'acheter le matériel qu'il fallait pour en faire d'autres. La nuit suivante, j'ai fait mon visage pour compléter. Le lendemain, elle a encore souri. Clément est devenu un peintre de la nuit. Pauline, elle avait toujours hâte de voir ce que j'avais fait. Elle était heureuse quand je peignais. Elle souriait. Elle me disait « Qu'est-ce que tu vas me faire cette nuit ?» Le matin du 1er mars 2016, elle est partie. Clément n'est pas allé à l'hôpital ce jour-là, ni au salon funéraire. Il a voulu garder l'image de sa femme Pauline vivante. La nuit, il la retrouvait. J'ai continué à peindre. À travers chaque tableau, j'échange avec elle. Je raconte une partie de notre histoire. Je replonge dans un souvenir. Il y a de l'âme dans mes tableaux. C'est un pinceau qui s'écrit. C'est un pinceau qui écrit. Mes tableaux parlent d'elle. Il parle à elle. Je peux refaire un tableau plusieurs fois jusqu'à ce que ce soit ce que je veux dire, ce que je veux lui dire. Quand il est satisfait, il monte se coucher. chaque tableau a un titre, souvent un seul mot. Ensemble, colère, néant, frisson, bientôt, heureux, repos. Les premiers étaient sombres, les derniers sont plus lumineux. Il a en 9 saisons peint 306 tableaux pour Pauline de toute grandeur. Il en a fait encadrer des dizaines qu'il a accrochées au mur de sa maison de Saint-Nicolas. Une maison musée adossée au cap, dont les grandes fenêtres à l'arrière donnent sur des arbres matures une impression de forêt. Clément a été forestier. Quand on est heureux et bien, le temps passe vite. Je fais mes affaires, je passe ma balayeuse, je prends ma voiture pour aller faire un tour quand j'en ai envie. Je m'assois dans mon fauteuil et je regarde la forêt. Je suis toujours en contact. Mon cerveau fonctionne, il est actif, je ne lui donne pas le temps de s'arrêter. Clément a 94 ans. Je mène une vie simple et heureuse. Parfois, il compose un poème à Pauline. Il m'en a récité un, le premier qui lui est venu en tête, l'histoire de deux cœurs si liés qu'on ne sait plus lequel est lequel. Je lui compose en regardant les arbres par la fenêtre, les feuilles qui tombent. Vous savez, c'est inspirant l'amour, surtout quand il est immortel. Dans le Nouvelliste, un outil pour détecter les baisses de prix. Jeune entrepreneur de la région et grand voyageur, Alex Sirois a développé des techniques qui permettent de trouver les meilleures offres de vol. À ce jour, plus de 30 000 Québécois reçoivent ces aubaines via son site Les vols d'Alexis. Avant son dernier voyage en Indonésie, il y a plus de 2 ans, Alex Sirois songeait à partir en voyage vers n'importe quelle destination à n'importe quel moment. L'entrepreneur a décidé d'utiliser ses compétences pour concevoir son propre système pour être en mesure de détecter le moment où les compagnies aériennes commettent des erreurs. Étant programmeur lui-même, cela lui permet de suivre en temps réel le marché aérien pour détecter de très grosses baisses de prix ou des promotions. Du moment où il déniche des offres profitables, le jeune homme envoie directement à ses nombreux visiteurs des alertes par courriel. Pour inciter les gens à se rendre à une destination, un éditorial au ton humoristique est attaché. L'entrepreneur y apporte de l'authenticité et de la couleur. J'essaie de faire sourire les gens et je mets mon cœur sur la table. Je trouve qu'en ce moment, sur les sites de réservation, c'est très terne. Qu'est-ce qui rend son entreprise différente des nombreux sites d'aubaine? Selon lui, sa force est qu'elle est offerte spécialement aux Québécois. Cela lui permet d'analyser en profondeur les prix pour la province. À la base, j'ai créé ce système pour moi. Et quand j'ai vu que ça fonctionnait vraiment bien, j'ai pensé qu'il y aurait certainement un intérêt pour tous les Québécois. Son objectif de cette année est de donner ses aubaines dans les mains de plus de 100 000 Québécois. Parce qu'on ne se le cachera pas, il y a de la place dans un avion. Alors, c'est donc un outil pour détecter les baisses de prix. Et c'est sur le site Les Vols, V-O-L-S, d'Alexis, A majuscule L-E-X-I. Dans le quotidien, le Salon de la femme du Saguenay-Lac-Saint-Jean a connu une édition record alors que les promotrices de l'événement s'attendent à dépasser les 8 000 visiteurs. Il y avait foule au centre des congrès du Delta en fin de semaine. Des femmes de tous les âges se trouvaient sur le site du salon qui a débuté vendredi. On a eu un bel achalandage, c'est une belle réussite. Samedi, nous avons eu une journée record au niveau du nombre de visiteurs. S'est réjouie Valérie Giroux, qui est l'une des promotrices du salon avec Maryse Delagrave. En début d'après-midi dimanche, elle pouvait déjà affirmer qu'il s'agissait d'une édition record. On a eu beaucoup plus d'enfants cette année. On avait un coin des petits, c'était une nouveauté. Quelques 115 exposants y proposaient des produits de beauté, d'artisanat, de santé pour bébés ou encore des vêtements, entre autres. Un espace gratuit était encore une fois réservé pour des organismes communautaires. Le Relais pour la vie, la Nichée, Accès Travail Femmes, Triolet et le comité Enfin, avec F-A-I-M pour fin, s'y sont succédés pendant la fin de semaine. Les promotrices du Salon de la femme ont réduit le nombre de kiosques de type bar pour ne conserver que les stations les plus populaires. Et pour terminer, dans la tribune, un vlogueur de Drummondville, Jim Schaab, a tout laissé derrière lui pour aller à la rencontre des francophones de partout dans le monde. Le premier Québécois à avoir réalisé 100 vlogs en 100 jours est allé faire le plein d'expériences enrichissantes dans les autres pays. « Je voulais vraiment rencontrer les êtres humains », explique le Drummondvillois de 22 ans. On se rend compte à quel point les gens qui nous entourent sont des bibliothèques vivantes. Jim Schaab est suivi par 1000 personnes sur YouTube et par 2000 personnes sur Facebook. Jim, J-I-M, Schaab, C-H-A-B, tout cela en un seul mot.
Retour en 1991 avec la formation R.E.M. et une de leurs pièces les plus connues, Losing My Religion.
Actualité culturelle, Yves Boisvert, qui est dans la section culture pour une grande entrevue d'un pivot à l'autre. L'un lit pour gagner sa vie, l'autre vit pour lire. Lui fuit les librairies, elle y entre comme dans une cathédrale. Il lit pour échapper à la tristesse du moment. Elle, au contraire, arrive à peine à lire dans les moments de spleen. C'est en écrivant ce livre sur la lecture que Cécile Pivot et son célèbre père Bernard ont constaté à quel point ils abordent cet objet de manière assez radicalement différente. Bien entendu, personne ne lit comme Bernard Pivot, lecteur professionnel depuis 45 ans. Depuis longtemps, mon éditeur veut que j'écrive sur la lecture, mais je répondais que mon expérience n'avait pas beaucoup d'intérêt, puisque toutes mes lectures ont été faites soit pour interroger les écrivains, écrire des critiques ou décerner le prix Goncourt. Le public ne s'y retrouvera pas. En revanche, j'ai à côté de moi une vraie lectrice qui ne lit que pour son plaisir, qui trouve toujours le temps de lire, qui a une conduite exemplaire qui méritait d'être connue du grand public, qui se retrouvera dans l'amour qu'elle porte à la lecture et aux livres, dit Bernard Pivot au téléphone depuis Paris. Ainsi est né Lire, point d'exclamation, qui paraît cette semaine chez Flammarion. C'est une sorte de bloc-notes joliment illustré où le père et la fille confrontent les vues sur l'acte de lire et ses rituels, parfois étranges, toujours personnels. Bernard Pivot a raconté souvent sa vie monastique comme animateur de l'émission culte Apostrophe entre 1975 et 1990, puis de Bouillon de culture 1991-2001. De 10 à 12 heures de lecture par jour, 7 jours sur 7. Chaque livre lu de la première à la dernière page. Des piles de livres qui arrivent dans un feu roulant incessant. 5, 6, 7 fois par jour. Des facteurs, des coursiers, de la concierge. Les piles partout dans l'appartement, dans un système de classement précis. Selon l'endroit où les livres étaient déposés, Cécile pouvait deviner quel sort plus ou moins favorable leur serait réservé, y compris ceux, l'immense majorité en fait, qui étaient redonnés en petits paquets à l'entourage selon les intérêts de chacun. Si le père maintenant âgé de 82 ans reconnaît que ses heures de lecture l'ont dérobé à la vie familiale, Cécile est plus discrète. C'était comment avec Bernard Pivot comme père? Il ne sortait pas, n'allait pas au théâtre ni au cinéma. S'il allait déjeuner avec un ami, il angoissait. « Ah là là, je suis en retard dans mes lectures. » C'était un livre par jour, alors ce serait un et demi le lendemain, dit sa fille. Il travaillait à trois endroits dans l'appartement, son bureau, le salon et la salle à manger, confie Cécile Pivot au bout du fil. Il passait de l'un à l'autre pour y faire des choses très précises. « Je ne lui ai jamais dit, mais quand il n'était pas là, j'allais dans son bureau. » J'adorais ça. L'odeur du papier, son meuble en L, très années 70, et la pagaille. C'était une drôle d'atmosphère. C'était un père absent. Physiquement, il était tout le temps là. Mais même quand il ne lisait pas, quand il mangeait avec nous, il n'était pas là. Il était dans le livre qu'il venait de lire, celui qu'il devait lire le lendemain, l'émission qui s'en venait. En même temps, j'étais très fière de mon père. Et je crois que les filles pardonnent plus facilement à leur père qu'à leur mère. Il a été chanceux d'avoir deux filles. Ma mère, qui était aussi journaliste, Monique Pivot, qui a dirigé notamment Gold et Milo, travaillait énormément elle aussi. J'ai tout de suite été une grande lectrice. Je me suis réfugiée de la solitude dans laquelle nous étions. Ainsi donc, à l'encontre du conseil classique, Bernard Pivot n'a jamais lu une seule histoire à ses enfants. Il ne cache pas ses regrets. Des gens plus intelligents que moi auraient consacré moins de temps à l'émission et l'auraient réussi aussi bien que moi. Je n'en sais rien. Pourquoi lire? Lire, c'est bien beau, mais pourquoi, au juste? Les gens qui lisent sont moins cons que les autres. C'est une affaire entendue, écrit celui qui refuse coquettement le titre d'écrivain malgré les belles pages qu'il a écrites, notamment dans « La mémoire n'en fait qu'à sa tête » paru en 2017. Il y a des imbéciles chez les lecteurs et des brillants chez les non-lecteurs. Mais en gros, ça se voit, ça s'entend, ça se renifle. Les personnes qui lisent sont plus ouvertes, plus captivantes, mieux armées dans la vie que les gens qui dédaignent les livres, écrit-il. Les deux disent leur préférence pour le roman. Elle cite Kundera. « La bêtise des hommes est d'avoir réponse à tout. la sagesse des romans et d'avoir question à tout. Pour lui, qui ne passe pas une journée sans lire et sans ouvrir le dictionnaire, lire, ce n'est pas se quitter, c'est se glisser dans la présence des autres. Pour Cécile, qui confesse annuler des rencontres avec des amis pour aller lire en cachette au fond d'un café, c'est cette impression d'être une minuscule étoile au-dessus de personnages au destin fixe, fixé d'avance. Toutes ces existences qui ont traversé la mienne l'ont même influencée, sont ma plus grande richesse. Comment lire? Affalé dans un fauteuil, au lit, pas chez les pivots. Bernard est un lecteur janséniste qui considère qu'il ne faut pas cumuler les plaisirs du corps et de l'esprit. Il faut être physiquement ni bien ni mal, être absent de sa carcasse pour être le plus présent possible dans les mots de l'écrivain. Fumer en écrivant? Oui, mais pas en lisant. La fumée pourrait déranger les personnages. Pas question non plus de lire sur la plage dans la rudesse des galets et l'intrusion horripilante du sable. Cécile a besoin d'une chaise sur laquelle poser ses coudes, ou debout dans la cuisine. En fait, elle change sans cesse de lieu pour fuir les nombreux sujets de diversion, du rangement au lave-vaisselle à la radio. Courage, fuyons! De toute évidence, et contre toute attente, cette femme n'a pas pris en grippe le livre bien qu'il lui ait volé son père pendant toute sa jeunesse, à la surprise de celui-ci. Du temps d'avant la télé, il n'était pas rare qu'on traite les enfants lecteurs de paresseux. Mais aujourd'hui, c'est au contraire un sauve-conduit face aux tâches familiales. On ne dérange pas un enfant qui lit. On ne va pas le contrarier en lui demandant de laver la vaisselle, dit Bernard Pivot. Lire est aujourd'hui un refuge qui donne à celui qui s'y adonne une sorte de position enviée. Quand un adolescent lit, les parents disent « surtout ne le dérangeons pas », dit Bernard Pivot. Peu importe, un enfant qui lit une bande dessinée ou Stendhal, qui lit un livre sur le sport ou un roman de science-fiction, c'est très bon pour lui. L'essentiel, c'est l'activité même de la lecture. Tout ne se vaut pourtant pas dans la lecture. Évidemment, si l'adolescent ne lit que des choses stupides, mais je n'y crois pas du tout, dit le président de l'Académie Goncourt, parce que l'écran du smartphone, ou phone, est devenu un tel concurrent à la lecture que l'enfant qui lit ne va pas perdre son temps à lire des banalités. Le métier de lire sans arrêt n'apporte pas que des bonheurs. Le père Pivot, qu'on ne soupçonnerait pas de mesquinerie, avoue qu'il lui est arrivé à apostrophe devant des auteurs rasants de se venger de l'ennui auquel il l'avait soumis par des questions distantes et des remarques persifleuses. Le rythme n'est plus aussi frénétique, mais après ses engagements télévisuels, il a accepté une chronique littéraire au Journal du Dimanche, en plus de l'Académie Goncourt, qui lui met au menu entre 40 et 60 romans pour l'été. Parfois, je maudis le Goncourt quand il fait très beau et que je dois lire un livre de toute urgence. Et parfois, quand il pleut, je me dis heureusement que j'ai la lecture. Même si plusieurs vous tombent des mains, vous n'allez pas demander à tous les livres d'être bons. Et puis, le livre que je trouve excellent, vous allez le trouver navrant. Et à l'Académie Goncourt, inutile de vous dire qu'il n'y a pas unanimité sur les livres. C'est ça qui est intéressant dans la vie littéraire. Il y a des débats, des polémiques, et c'est tant mieux. Parmi ces beaux souvenirs, un grand poète québécois. Il y a une antinomie entre le chuchotis de la poésie et la violence même de l'image et de la parole à la télévision. Les émissions que j'ai faites sur la poésie étaient toujours un peu décevantes parce que les poètes étaient timides. Il y a une exception. C'est Gaston Miron, parce que lui n'avait pas peur de la télévision. Il s'était levé et avait dit de mémoire un poème sur sa fierté d'être québécois. Ça avait eu un grand retentissement en France, surtout à le voir au milieu des autres poètes, les fesses coincées. La vie est difficile pour le livre, soyons clairs. Le livre en France est sous perfusion, dit Cécile. Subventionné, protégé par le prix unique, encouragé par les festivals, les initiatives pour les jeunes, les librairies qui ferment, mais il existe encore. Faut pas être trop pessimiste, nuance le père. Après les excès des écrans, la lecture revient. Ils ne sont pas assez nombreux, hélas, non, mais il ne faut pas condamner la lecture. C'est une conquête plus difficile qu'autrefois. Ce n'est plus une activité aussi naturelle. C'est pourquoi je dis que la France insoumise, mais je pourrais dire le Québec insoumis. C'est celle qui lit, sur tablette ou sur papier. Considérant les tentations qui le sollicitent quand l'adolescent choisit un livre d'une certaine manière, c'est un acte d'héroïsme, dit le journaliste-écrivain, qui souhaite mourir un livre à la main. Cécile, elle, voudrait plutôt vivre une autre fois. La vie est mal faite. Il nous en faudrait deux. La seconde serait consacrée à relire les livres que nous avons aimés et tous ceux qui, hélas, n'ont su nous séduire. Lire par Bernard Pivot et Cécile Pivot, publié chez Flammarion, compte 192 pages et sera en librairie le 19 avril.
Navigateur, mains ouvertes sur les songes, tu sais la carte de mon cœur, les jeux qui te prolongent, et la lumière chantée de ton âme, mon bel amour, navigateur. La lumière chantée de ton âme, mon bel amour, navigateur. Le pied secret, ce qu'il nous faut écouter. L'oreille comme un coquillage, dans quel pays du son bleu. Amour et moi, dans l'octave du don. L'oreille comme un coquillage, dans quel pays du son bleu. Mon bel amour, navigateur. Mon bel amour, navigateur sur la jetée de la nuit, je saurai ma présente d'un vœu à l'azur ton mystère, déchiré d'un espace rouge gorge.
De Jim Corcoran, le texte est de Gaston Miron, tiré de L'Homme rapaillé. C'était Mon bel amour, un extrait de l'album 12 Hommes rapaillés, volume 1.
Sujet libre, des cinéphiles qui ont du chien. Une salle de projection montréalaise s'est transformée en parc à chiens le temps d'un film hier soir. Le cinéma du parc a invité les maîtres et leurs toutous pour une représentation d'Isle of Dogs, un film d'animation de Wes Anderson, mettant en vedette le meilleur ami de l'homme. En deux jours, tous les billets avaient trouvé preneur à deux ou quatre pattes. Oursin, un chien Mira relevé de ses fonctions pour un problème de genou, profite bien de sa retraite. On a des photos entre ses maîtresses Ève Lachapelle et Elisabeth Gauthier. Il attend le début de la représentation. On est venu pas mal juste pour le chien, admet Elisabeth en riant. Quoique c'est un film de Wes Anderson, alors on est pas mal certaine que ça va être bon. L'idée est née d'une initiative semblable à Dublin et s'est confirmée dans l'esprit des administrateurs lorsqu'une cliente a signifié son intérêt pour un tel happening. On savait que ce serait populaire. En 2 jours, les 160 billets se sont vendus, incluant les places pour les chiens, a dit Jean-François Lamarche, directeur général adjoint du cinéma du parc, ajoutant que si la soirée se déroulait sans ennui, l'expérience pourrait bien se répéter. Carole Bergeron était curieuse de voir la gestion de la soirée avec tous ses spectateurs à quatre pattes. Les chiens étaient calmes et à peine quelques aboiements se sont fait entendre. Molly, sa golden doodle de 3 ans, était assise bien droite pendant la représentation. Il faut dire qu'elle avait une bonne raison de faire bonne impression puisque son amoureux du parc à chiens, Benji, était assis à ses côtés. Assise en plein centre de la première rangée, Geneviève Blais savourait sa soirée qu'elle attendait avec impatience. Ses 3 chiennes, Agathe et Lily Rose, 13 ans, et Catherine, 1 an et demi, avaient chacune leur billet. Mais elles ont écouté le film sur le même siège, trop lourd à garder, baissé pour chacune d'elles. Quand Agathe était bébé, je l'avais amenée au cinéma cachée dans mon manteau. Et là, elle a 13 ans. Elle est presque aveugle. Et ça me rend émotive d'être ici avec elle, a confié sa maîtresse. C'était soirée tricherie pour Lucie. La belle blonde a eu droit au classique popcorn pour accompagner le film, pendant lequel elle s'est rapidement endormie sur les genoux de son maître Gabriel. C'était un peu l'idée derrière l'initiative, a expliqué le directeur général adjoint du cinéma, que les gens se sentent comme à la maison tout en faisant une sortie au cinéma. Afin de maximiser les chances que tout se déroule dans le calme, des animaliers étaient sur place. Le nombre d'employés avait été doublé, le volume du film avait été diminué et les lumières avaient été seulement tamisées. Des sacs de plastique recouvraient les bancs des chiens et comme les maîtres de Boubou, un imposant bouvier bernois, de 10 mois seulement, les participants devaient apporter une couverture pour couvrir le banc sur lequel Toutou était installé. Il ne suffisait pas d'une idée originale et de la bonne volonté pour rendre cette soirée possible. Les organisateurs ont dû penser à de nombreux détails comme l'accord des assureurs et des gestionnaires du centre commercial dans lequel se trouve le cinéma. Daphné, sa chienne Jaca et tous les autres spectateurs ont assisté à la représentation de 21h hier soir, une plage horaire judicieusement choisie pour donner le temps à l'équipe d'entretien de bien nettoyer la salle par la suite. Un dossier restauration, Nadiel Couteloup. Les enfants, bienvenue au restaurant. Dans mon texte, mon enfant, pas dans ton restaurant, publié sur son blog, Yann Perrault lance d'emblée. Alors, dans son texte, dis-je bien, mon enfant, pas dans ton restaurant, publié sur son blog, Yann Perrault lance d'emblée. J'aime bien aller au restaurant avec ma famille et j'aime la cuisine bien apprêtée. Je ne veux pas toujours aller dans un restaurant de type familial, mais lorsque je vais dans un resto un peu plus trendy, j'ai l'impression que mon enfant est de trop. Et pourtant, ça n'est vraiment pas difficile de satisfaire un enfant de 2 ou 3 ans. Quels sont les problèmes soulevés par Yann Perrault? Des restaurants sans table allongée ou chaise haute, ou encore une chaise d'appoint tellement souillée que je dois utiliser 12 lingettes pour tout nettoyer. Un service trop lent pour les enfants, ou encore l'absence de jus au menu. Est-ce si compliqué d'offrir un menu composé de plats autres que ceux préparés avec de la friture ou des pâtes, se questionne le chef? Sa sortie a enflammé les réseaux sociaux. Le chef Danny Saint-Pierre a renchéri en écrivant sur Facebook « Le plus dur, c'est les parents caves qui n'entendent plus leurs enfants ou qui considèrent que c'est correct que leurs enfants courent partout les mains beurrées. » Yann Perrault a décliné une demande d'entrevue sur le sujet avec la presse. « J'ai mentionné dans mon blog déjà tous mes commentaires à ce sujet », nous a-t-il poliment répondu par courriel. Les familles sont toujours bienvenues dans un restaurant, d'après le conseiller en communication de l'Association des restaurateurs du Québec, Martin Vézina. Un restaurateur va accepter n'importe quelle clientèle parce qu'il veut faire vivre son établissement. L'enjeu, ce n'est pas tant si le restaurateur va s'adapter, mais c'est plus souvent le regard que pourraient poser les autres clients par rapport à la clientèle familiale, soutient-il. Il estime toutefois que les parents ne devraient pas s'empêcher de fréquenter ces endroits, s'ils se sentent à l'aise et que leurs enfants peuvent vivre avec certaines règles dans un resto. Hugo Vincent Mariotti, chef du bistrot West Brand à l'auberge du même nom dans les cantons de l'Est, constate que de plus en plus de parents emmènent leurs enfants manger à de bonnes tables. « Je crois que c'est parce qu'ils ne veulent pas se priver d'une bonne bouffe », lance celui qui a travaillé au Ferreira Café et au Beaver Hall et qui est père de deux filles de 4 et 8 ans. Son établissement accueille régulièrement des enfants. « Je crois cependant qu'il y aura toujours des restaurants qui ne seront pas adaptés aux enfants, c'est leur style. Mais je pense que tranquillement, il y a une certaine évolution qui se fait. » Même si son établissement ne dispose pas de table allongée, il admet que tous les restaurants devraient en avoir. Le chef souligne aussi que dans des restaurants huppés, il y aura toujours des clients qui ne voudront pas voir d'enfants. Et on ne peut pas imposer les enfants aux clients, dit-il, en soulignant que les restaurateurs ne veulent pas qu'une clientèle nuise à l'autre. Pour satisfaire ces différentes clientèles, M. Mariotti explique que dans beaucoup d'établissements, les serveurs dirigeront souvent la clientèle familiale vers une certaine section du restaurant, plus éloignée du bar, par exemple. De nombreux restaurants en vogue délaissent l'éternel menu pour enfants pour des propositions culinaires plus intéressantes, comme le bistrot West Brom, qui offre, entre autres, des petites portions de saumon ou de bavette avec des frites maison et des légumes. Au restaurant gastronomique Les Labours du luxueux hôtel Le Germain-Charlevoix, il n'est pas rare de croiser des enfants de moins de 5 ans. Beaucoup de parents aiment faire découvrir une expérience plus gastronomique à leurs enfants, sortir des sentiers battus et leur proposer de nouvelles saveurs, confirme le directeur de la restauration de l'hôtel Le Germain. On propose ici un menu pour enfants qui a une touche locale, comme un macaroni maison au fromage Migneron de Charlevoix. Je vois des familles commander une table d'hôte à partager pour leurs deux enfants parce qu'elles ont envie de leur faire goûter autre chose. Alors, on fait deux petits plats. Le restaurant dispose aussi de chaises hautes et de tables allongées. Quant au service, les parents font souvent remarquer qu'il est un peu long. C'est sûr que ce ne sera pas aussi vite que le Saint-Hubert. Et les enfants doivent bien respecter le cadre. Il reste que les enfants sont une clientèle stratégique à séduire. Ces joyeux bambins sont nos futurs consommateurs de demain. Des restos branchés appréciés des parents? Milos, restaurant A, chez Lionel, Nouveau Palais et le Clocher Penché. Alors, je reviendrai demain sur le dossier parce qu'il y a d'autres sections, conseils pour un repas réussi et des expériences inégales. Donc, ce sera pour demain puisque l'émission est presque terminée. Merci d'avoir été à l'écoute en ce lundi 16 avril 2018. Merci Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde et au choix musical. Ici Hélène Denis qui vous retrouve dans quelques minutes à l'émission L'Hyperactualité.